Deuxième conférence de la journée du 7 juillet 1986.
Donc vous pouvez toujours poser vos questions. Autant que possible, je répondrai. S'il y en a trop, je laisserai tomber certaines. Ici, le privilège de la première. S'il est vrai que la foi qui touche ce qu'il y a de plus fondamental dans l'homme est d'abord une certitude, un donné, avant d'être une vérité, dites une évidence, une vérité pour lui, parce que c'est une vérité. L'objet formel de la foi, c'est la vérité première qui se révèle à nous. Le chrétien ne devrait-il pas être d'abord un philosophe qui part du subjectif du sujet pour aller à l'objectif de l'objet? Très bonne objection. Ça, c'est la philosophie chrétienne. Il y a un danger, justement, c'est ce qu'on appelle l'ontologisme. On confond ce qui vient de la foi et ce qui vient de la philosophie. Dans l'ordre de l'amour, c'est la même chose. Dans l'ordre affectif, tout amour vient de Dieu, c'est très vrai. Mais l'amour humain n'a pas les mêmes exigences que l'amour divin. La charité n'a pas les mêmes exigences que l'amour de l'époux pour l'épouse. Je me souviens au début de l'anneau d'or avec Farel. J'étais très lié avec lui, je l'aimais beaucoup. Mais je disais, faites attention, ne confondez pas la charité fraternelle et l'amour de l'époux pour l'épouse. C'est pas la même chose. Bien, ne confondons pas les exigences de la foi et les exigences de la philosophie. C'est pas la même chose. C'est pas toujours commode, évidemment. Il ne faut surtout pas confondre. Vous voyez, la foi est reçue dans notre intelligence. Si donc nous avons une intelligence fêlée, ça peut arriver. Alors, si on a une intelligence fêlée, la foi ne va pas redresser tout de suite cette intelligence. On sera un croyant fêlé. Pas en tant que croyant, mais en tant qu'intelligent. Ça existe, hélas. Mais ça, vous voyez, de temps en temps, des gens qui ont une foi vraiment extraordinaire, mais qui sont bêtes. Ça existe, que vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est pas parce que vous êtes croyant que vous allez devenir intelligent. Alors à ce moment-là, tout le monde serait croyant, vous savez. C'est pas parce que vous allez être croyant que vous allez passer les examens de philosophie, de mathématiques, non. La foi est un don divin en vue de la vision béatifique. En vue de la vision béatifique, en vue de notre finalité surnaturelle. Mais la foi ne nous apporte pas de connaissances nouvelles sur l'univers, sur la matière, sur le corps, sur notre biologie, même sur notre psychologie. Autrement, on n'aurait pas besoin de travailler. Je suis croyant, j'ai tout. Non, je dois travailler. Je dois acquérir ces sciences. La foi ne modifie pas la structure de notre intelligence. La foi, pour ça d'abord, ne nous apporte aucun concept nouveau. C'est même très extraordinaire, ça. Aucun concept nouveau. La foi ne nous apporte qu'un jugement d'existence nouveau sur Dieu, Trinité, Trine, sur le mystère du Christ. Cet homme, Jésus, il est Dieu. Il n'y a que la foi qui dit ça. Le philosophe peut regarder Jésus en disant que c'est un homme très admirable et faire la comparaison de Jésus et de Socrate. Ça a été fait. Même par la Dominique. En mettant la comparaison entre les deux. Et la comparaison est très simple. Ce sont deux hommes qui n'ont rien écrit. Donc, c'est évident. Ça s'impose comme comparaison puisqu'ils n'ont rien écrit. Tous les deux étaient très intelligents. 3 ans que je fais de la philosophie. Ici, au Saujoir, j'arrive à convertir mon intelligence. Je reste dominicain. Si je n'arrive pas, j'ai mon intelligence fêlée. Elle est marxiste. Alors je n'ai plus qu'à sortir. Je resterai chrétien. Je serai ouvrier. Et je garderai le silence. Parce que je sais que mon intelligence serait marxisée. Oui, c'était très honnête. Ça, c'est l'honnêteté d'un néophyte. Et heureusement, vous savez, quand il m'a dit ça, je me suis dit, je vais faire le cours pour lui. Parce que lui, il avait l'avidité. C'est extraordinaire. Quand la chrétienté aura des quantités de marxistes convertis, je vous affirme que la philosophie de saint Thomas reprendra du poil de la bête. Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce qu'ils voudront aller jusqu'au bout. Et ils seront très exigeants. Quand je voyais, parce que je l'avais dit de venir me voir quand il voulait, il me citait Lénine comme un autre m'aurait cité la Bible. Donc ça m'a appris, ça m'a familiarisé avec Lénine. Parce qu'il me citait Lénine constamment, comme si c'était... Si on est Lénine, dit ça, qu'est-ce que vous dites? Lénine a commenté la métaphysique d'Aristote. Faut pas l'oublier. Il connaissait la métaphysique d'Aristote. Parce que pour les marxistes, Aristote reste un philosophe réaliste de la matière, de la philosophie de la nature, tandis que Platon, c'est le bourgeois. C'est évident. Ça, c'est sûr. Parce que Platon, c'est l'idéalisme. Donc c'est l'idéalisme bourgeois, tandis qu'Aristote, c'est le réalisme. Alors, ils ne vont pas jusqu'au bout du réalisme, mais il y a quelque chose. On peut faire un petit parcours avec eux. À cause de la philosophie de la nature. Alors, il avait un désir, lui, d'aller jusqu'au bout. Au bout de 3 ans, Dieu avait permis que son intelligence était convertie. Donc il a pu rester dominicain. Et je crois que c'est très juste. Dieu convertit notre cœur et nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Alors, ce serait trop commode, il convertirait notre cœur, et puis nous convertirait notre intelligence, on n'aurait plus rien à apprendre. Ah, pas du tout. Il veut que nous apprenions, que nous travaillions. Et il est là pour nous aider, évidemment, avec sa grâce, mais il est là pour nous aider à devenir intelligents. Il veut que de fait, il y ait toujours cette intelligence au service de la foi, au service de l'amour. Donc, vous voyez bien, la foi est une connaissance affective. Et la certitude de la foi vient de la volonté. Je crois parce que je veux croire. Et je crois parce que Dieu me donne cette grâce qui me permet de croire. Je n'ai pas d'évidence dans ma foi, mais j'ai une certitude qui dépasse toutes les autres certitudes. J'ai donc pas d'évidence, mais une certitude. Tandis que dans l'intelligence normale, naturelle, humaine, la certitude provient ou de l'évidence ou de la volonté. Il me raconte qu'il a assisté à une cérémonie charismatique. d'emblée, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Alors à ce moment-là, voyez tout de suite, il y a une procession. Évidemment, dans cette procession, il y a toujours un dernier. Et le dernier était un petit tonneau. Il souffrait d'obésité. C'était visible. Il souffrait d'obésité. Évidemment, tout le monde le regardait. Alors, chaque fois qu'on arrivait auprès de la charismatique, elle imposait les mains. Il tombait par terre. Il était guéri. Alors, voyez, on attendait. Attendez, c'est quelqu'un qui l'a vu. Alors, le petit tonneau est avancé. Elle a imposé les mains. Il tombe par terre. Il maigrit de 30 kilos. Alors, il me posait la question, vous de quel pied le vient, est-ce que c'est du Saint-Esprit ou est-ce que ce n'est pas du Saint-Esprit? Je dis, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que je voie. C'est une très bonne histoire. Elle se passe au Texas. C'est le Saint-Esprit au Texas. Il fait chaud. Dans un tas des choses comme ça extraordinaires. Bon, il m'a raconté ça. Il m'a dit qu'il y avait vu, comme c'était un ami. Mais il n'y a pas de raison que je ne crois pas. J'avais dit que si j'ai vu ça, je sais si c'était pas passé dans la presse. J'ai vu ça. Je crois. Je suis certain. Je crois de foi humaine, donc je suis certain. Vous voyez, quand vous dites à un ami, je crois ce que tu dis. Vous n'avez pas l'évidence. C'est lui qui l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais je crois à ce qu'il me dit. Et j'ai une certitude, parce que je crois à ce qu'il me dit. Un témoignage, mais la certitude qui repose sur le témoignage. Et je crois à ce qu'il me dit. Donc j'ai une certitude subjective qui provient de l'amitié. Parce que c'est un ami qui me dit ça, je crois. C'est l'avantage de l'amitié. C'est que l'amitié prolonge votre œil. Tout ce qu'un ami a vu, je l'ai vu. Tout ce qu'un ami pense, je le pense. C'est ça le propre de l'amitié. Donc ça me prolonge. Vous voyez donc qu'il peut y avoir des certitudes provenant de la volonté au point de vue humain. C'est ce qu'on appelle la foi humaine. La foi dans l'opinion de quelqu'un qui me raconte une chose, c'est la foi humaine. Mais ce n'est pas la structure normale de l'intelligence. La structure normale de l'intelligence, c'est d'être certain grâce à l'évidence. Je continue. Vous voyez qu'au plan philosophique, je résume ce matin très rapidement. On voit que le mal n'a pas été considéré chez les théologiens, chez les philosophes, comme le problème majeur. C'est curieux, c'est comme ça. Cependant, au cours de l'histoire de la philosophie occidentale, nous voyons que toute une tendance philosophique, la tendance idéaliste de Descartes à Hegel, avec Leibniz entre deux, essaie d'éviter le mal. Le monde dans lequel on est, c'est le meilleur des mondes. Il ne peut pas avoir un monde meilleur que celui-là. Leibniz dit ça. Donc on ne veut pas regarder le mal. Parce qu'on part des idées. Ça existe. Autre position diamétralement opposée, celle de l'existentialisme, après Hegel, qui considère au contraire que le mal, c'est le problème majeur. L'homme est ordonné à la mort. majeur dans beaucoup de philosophie. Voyez, quand vous preniez Freud, par exemple, la position freudienne est une position qui insiste énormément sur le mal, puisque vous considérez que l'inconscient, je ne dis pas que l'inconscient est un mal, mais l'inconscient n'est quand même pas le bien. Et que l'inconscient est antérieur au conscient, plus fondamental. Vous avez la tendance de considérer que l'aspect négatif est avant l'aspect affirmatif. Même Heidegger, qui considère que l'angoisse est nécessaire pour découvrir l'être. Or, l'angoisse n'est pas le bien. C'est un certain mal, l'angoisse. Donc, le mal est premier. Je crois qu'on peut dire que, d'une manière générale, la philosophie post-hégélienne va mettre l'accent sur le mal. Sartre, Freud met l'accent sur le mal. On est enfermé dans le mal. Et vous sortir de ça. Alors, si vous voulez, nous allons reprendre le problème du mal à sa base. Il faut toujours faire ça. Il faut faire une petite topic rapide, voir ce que les philosophes ont dit avant. S'apercevoir que le problème est discuté. Vous n'avez pas l'unanimité, jamais, du reste au plan philosophique. C'est très rare. Je crois qu'on a très peu d'unanimité au point de vue philosophique. Je crois que la seule unanimité au plan philosophique, c'est les vertus cardinales. Je crois qu'il n'y a pas un philosophe qui refuse les vertus cardinales. C'est très curieux, du reste. La vertu de tempérance, la vertu de force, la vertu, on l'accepte comme étant quelque chose, comme un bien commun que tout le monde accepte. Et les autres positions, ben c'est toujours discuté. Mais c'est en éthique où il y a un point de vue commun. Parce que l'amour, il y en aura qui diront que la haine est avant l'amour. Il y a des philosophes comme ça qui disent que la haine est avant l'amour. Et ça existe. Je me souviens, il y a quelques années, faisant un cours à des terminales, je posais le problème de la haine et de l'amour. J'ai demandé, pour vous, est-ce que l'amour est avant la haine ou la haine avant l'amour? Alors, personne n'a osé bouger. Je me suis dit, quand même, quoi? J'ai secoué un tout petit peu. Alors, certains disent, non, l'amour est premier. Oui, ça c'est vrai. Eh bien, il y a quelqu'un qui a levé la main. Une fille de 17 ans qui a levé la main et dit, la haine est première. On ne peut pas aimer s'il n'y a pas de la haine. Moi, je dis, on ne peut pas avoir de la haine s'il n'y a pas eu d'amour. C'est un amour malheureux, la haine. C'est bien, moi, je suis passionnel. Quelqu'un qui vous a aimé énormément, puis vous n'avez pas répondu à tous ses amours, alors c'est une haine farouche. Et s'il n'y avait pas un amour avant, vous auriez l'indifférence, la neutralité. Tandis que quand il y a eu un amour qui n'a pas pu se développer, alors on se venge par la haine. Mais elle soutenait. Je l'ai vu après, du coup, parce que je sentais que c'était un problème très très foncier chez elle. Elle soutenait que la haine était première. Vous voyez, c'est intéressant à voir que quelquefois, profondément, les gens ont cette expérience-là. Donc, reprenons le problème du mal à sa source, c'est-à-dire l'expérience que nous avons du mal. C'est ça que d'apprendre à l'expérience, ne pas avoir d'a priori. Le philosophe ne doit avoir aucun a priori. C'est le propre du philosophe, même en matière politique. S'il est vraiment philosophe, aucun a priori. Il doit essayer de tout découvrir, c'est pas commode. Essayer de reprendre tout à partir de l'expérience. mal existe. Tous, nous avons eu une certaine expérience du mal. La souffrance. Quand vous allez chez le dentiste, je crois qu'en sortant chez le dentiste, vous ne dites pas « Ah, le mal n'existe pas, non, non, non. Ah non, la souffrance, elle n'existe pas, non, 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 non. C'était extraordinairement agréable. C'était merveilleux. Je retournerai avec joie. Regardez un gosse quand il va chez le dentiste. Il n'aime pas ça du tout. Une grande personne, il fait encore bonne tête. Mais un gosse, il dit tout de suite « Le mal existe. » Je crois que ça, on ne peut pas le nier. Et il existe. Mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Comme c'est difficile de préciser ce qu'est le mal. Ça échappe. Dès que je veux préciser ce que c'est que le mal, ça échappe. Alors, essayons de prendre les diverses expériences du mal. Je ne veux pas toutes les prendre. Quelques grandes expériences du mal. Dans les différents domaines, c'est-à-dire dans les différentes parties de la philosophie par rapport à l'homme, puisque c'est par rapport à l'homme que je regarde le mal avant tout. Je regarde le mal du côté de l'activité artistique. Dans l'activité artistique, le mal existe. En ce sens que il y a des résistances de la matière. Là encore, je prends un exemple pour que vous voyez bien. Un exemple vécu. C'est encore au Sauchoir, chez les Dominicains, à Étiole. On avait demandé à un Breton sculpteur de venir nous sculpter une Vierge Marie. Or, ce sculpteur breton était un animalier. Et il était donc tout à fait disposé à sculpter une Vierge Marie. Mais, comme il aimait beaucoup la Vierge, et qu'il nous aimait beaucoup, il dit, je vais essayer. Je vais essayer. Évidemment, jusqu'à maintenant, je n'ai sculpté que des animaux. Je vais essayer. Alors, il avait dit, pour sculpter la Vierge Marie, ah, il faut que je vienne vivre avec vous. Alors, il était venu vivre avec nous. Et vous lui avez réservé un petit atelier. Et vous comprenez que c'était la grande occupation. Toutes les récréations ont passé, lui dire un petit bonjour, pour voir si ça avançait, pour voir ce qu'il disait. C'était un jeune sculpteur merveilleux. Il sculptait une statue d'un mètre, un médecin, au fond, grandeur naturelle, je veux dire, donc une vierge d'un mètre 5,70 à peu près. Il a vu sa petite maquette, puis sculptait directement à même le granit, en bon breton. Un jour, je le vois tout triste. C'était déjà, j'étais là depuis 4 mois. Je le vois tout triste. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah! Venez, venez voir. Ah, il était en train de sculpter la tête. Il dit, je sais pas, pourtant, je connais ce granit. J'ai été moi-même le prendre dans la carrière. Je voulais que ce soit bien. J'avais inspecté dans tous les sens. Essayer de trouver. Oh, pas commode. passer ma nuit en prière pour demander ce que je fais, ce que je dois faire. Il a passé sa nuit en prière. Et alors à ce moment-là, le lendemain, quand je suis repassé, de nouveau, tout à fait gai, merveilleux. Je dis quoi ? J'ai trouvé. Prenez, je suis animalier. Alors, je projette sur la Vierge des choses trop raides. J'avais pas compris qu'il fallait mettre la tête un tout petit peu inclinée. Et ce bout de granit qui est tombé m'oblige d'incliner la tête. C'est merveilleux, vous voyez. On peut rattraper tout. C'est pour ça que je dis de ce côté-là, vous voyez.
C'était vraiment un TGV parti.
vient d'un amour qui se dégrade. Dans l'imaginaire se mêle un amour spirituel. Cet amour spirituel qui en soi est bon. Quand on aime une personne, quand on a le coup de foudre, Jacob pour Rachel, l'amour en lui-même est bon, et l'amour spirituel est très bon. Et l'imaginaire peut arriver à corrompre un amour. Vous ne pouvez jamais dire qu'un amour spirituel sera toujours quelque chose de merveilleux. L'amour demande de grandir, d'aller toujours plus loin. Et par l'imaginaire, il régresse. Le retour au berceau. La régression dans un amour spirituel. C'est l'imaginaire qui fait ça. Et alors cet amour devient quelque chose n'atteint plus sa fin. Et donc cet amour n'est plus bon. Le dilettantisme, ça existe. Il y a des gens auxquels vous ne pouvez jamais compter dessus. Il y a un dilettantisme qui vient de l'imaginaire. Il y a, à côté de l'imaginaire, les passions. Les passions en soi sont bonnes. Les 11 passions, saint Thomas. N'oubliez jamais ça. Les 11 passions. Parce que saint Thomas a 11 passions. Les 11 passions, c'est un amour sensible, la passion. L'amour du concupiscible. L'audace de l'irascible. Plus. paraissait. Personne, puis le reste, non. Normalement, on mange pour se nourrir. On mange pour faire de la philosophie. Primum vivere. Puis ensuite, on peut faire de la philosophie. Donc, vous découvrez dans le domaine affectif et éthique le mal constamment présent. Les imprudences. C'est un mal. Le manque de fidélité dans l'amour, c'est un mal. Vous avez promis fidélité, puis vous ne tenez pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui aurait dû se faire, il ne se fait pas. Il y a comme ça constamment dans le domaine éthique, le mal est présent. Retenez au moins l'orgueil, on y reviendra. Parce que philosophiquement, l'orgueil, c'est très intéressant. C'est pas drôle du tout à vivre, mais c'est très intéressant à analyser. Parce que c'est une chose assez monstrueuse. C'est le cyclope qui n'a qu'un œil. D'habitude, on a un deux pour voir qui est à côté de nous. L'orgueilleux ne voit que lui. Il n'a qu'un œil. Sans relief. Parce qu'il ne voit que lui. C'est ça l'orgueil. Alors, c'est, je crois, quelque chose qui va très loin. C'est un mal spirituel. C'est un mal spirituel. C'est le mal spirituel par excellence, l'orgueil. La vanité, c'est déjà beaucoup plus gros. C'est plus quantitatif. C'est plus visible. Et c'est moins mauvais, si j'ose dire. Tandis que l'orgueil, c'est terrible.
Vous avez des orages.
passe sur une forêt et qui arrache toute une série de chaînes d'arbres. Hier, j'étais à l'île de Lérins. J'étais pas retourné depuis qu'un cyclone était passé en une nuit, en quelques instants, 200 arbres abattus, arrachés. Ça fait des provisions de bois. Et des arbres bien plantés, il faut voir ce que ça représente. La nuit. Tout le monde a cru que c'était la fin du monde. C'est vrai qu'un cyclone, c'est très impressionnant. Il y a un cyclone dans une forêt, c'est quelque chose. Il y a un mal dans la nature, parce que vous n'allez pas me dire que c'est un bien, ça. Les rats de marée. Philosophie de la nature qui fait qu'un ordre donné est brisé. Dans l'ordre des vivants, il y a des monstres. Poignées. Il y a des monstres parce que l'homme manipule. J'avais un jeune histologue à Fribourg que je connaissais bien. Un Français, alsacien et protestant, d'une très grande rigueur. Je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait comme métier, du moins à l'université dans son travail. Il étudiait l'évolution des petits oiseaux. Alors il m'a simplement dit, je vois que chaque fois que j'interviens sur un œuf, je fais un monstre. Je fais des monstres. L'humanité fait des monstres. C'était une manière de dire, vous voyez très bien ce qu'il voulait dire, mais indépendamment des interventions biologiques, il y a des monstres dans la nature. Papa n'y est. Qui devrait produire un animal semblable, où elle n'aboutit pas, où elle aboutit quelquefois à des choses monstrueuses. En philosophie du vivant, on doit reconnaître que là encore, la matière est quelquefois victorieuse de la transmission de la vie. Se fait bien, c'est elle qui domine, elle est victorieuse. Mais quelquefois la matière, ça va jusque-là la matière. Alors y a-t-il un mal au niveau philosophie première, au niveau de l'être? Quel est le mal de l'être? C'est de pas être. Est-ce que c'est un mal de ne pas exister? Posez-vous la question. Est-ce que c'est un mal de ne pas exister? Est-ce que le non-être est un mal? Le non-être tout court? Est-ce qu'au niveau de l'être pris en lui-même, le mal existe? C'est beaucoup plus difficile de se poser la question. Hein. C'est beaucoup plus difficile de répondre, je veux dire, dans ce domaine-là. Est-ce qu'au niveau de la philosophie première, le mal existe? Ou est-ce que le mal n'existe qu'au niveau du vivant, de la nature, de l'homme? Est-ce que le mal existe au niveau de l'être? Dans la mesure où l'être est bon. C'est vrai, il y a une thèse dans la philosophie thomiste qui est très intéressante, c'est les transcendantaux. Les transcendantaux, qu'est-ce que c'est que ça? Quand un homme parle des transcendantaux, il nous dit que la raison d'être est convertible avec l'un, le bien, le vrai et la réalité, parce qu'elle est plus profonde. si l'être est convertible avec, avec le bien, le vrai, tout ce qui est, du fait même qu'il est, est bon. Donc ça évacue le mal. Certains l'ont dit, et c'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement curieux de voir du point de vue de l'être.
L'obstacle à l'amour, c'est l'orgueil. Et presque toujours,
c'est l'orgueil qui conduit à l'infidélité, donc à un arrêt dans l'amour. Ça, je crois que vous pouvez tous comprendre ça. Autrement dit, je vois que le mal est très proche de moi et que je suis d'une certaine manière, comprenez bien, je suis d'une certaine manière le milieu dans lequel le mal se développe le mieux. C'est pas auprès de l'animal. Mais non, est-ce que l'animal souffre? Question très discutée. Je ne veux pas la résoudre parce que tout de suite les passions sont là. Donc, il suffit d'avoir un petit chien et vous le chien pleure ou il pleure. Ce chien, vous voyez comme il souffre. Et oui, mais vous n'êtes pas dedans. Vous savez pas très bien ce qu'il éprouve. Quand il pleure, quand il vous regarde avec des yeux de chien, c'est extraordinaire. Parce qu'aucun être humain ne m'a regardé comme ça, et par définition, parce qu'il ne vous a pas regardé comme un chien. Donc, il vous a regardé autrement. Celui-là, il vous regarde comme un chien. La fidélité du chien, c'est la prière de l'arche. Vous la connaissez, la prière de l'arche. Alors, il y a la prière du chien qui dit à Dieu, au fond, il n'y a que vous et moi qui sommes fidèles. Tous les autres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, impossible. Donc, s'il a le sens de la fidélité, il a le sens de la souffrance. Alors, est-ce que le mal, souffrance, existe chez l'animal? Oui, je prends le point de vue subjectif de la souffrance. Il est bien évident que chacun d'entre nous, nous éprouvons la souffrance très différemment. Il y a des petites plantes sensitives. Des animaux avant le déluge qui continuent d'exister et qui souffrent très peu. Ils passent leur chemin sans s'apercevoir qu'ils font souffrir les autres. Bon, c'est très différent la souffrance. Pour chacun d'entre nous, c'est très subjectif. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quand on dit c'est subjectif, votre mal de tête, il est subjectif. Il faut être bien payé, mais il est objectif pour moi. Il me fait mal. Même s'il a des raisons subjectives, il me fait mal. Enlevez-moi ce mal de tête. Vous voyez, le mal est subjectif. Ça n'enlève rien à l'existence du mal. La souffrance est subjective. Elle est très subjective. La tristesse aussi. Pourquoi certains jours je suis triste et d'autres jours je ne suis pas triste? La tristesse provient de l'absence de celui qu'on aime. Quand il est présent, c'est merveilleux. Quand il est absent, c'est terrible. Donc, c'est vous qui y pensez. Si vous n'y pensiez pas, vous ne seriez pas triste. Vous voyez, subjectivité. C'est vrai, il faut reconnaître que c'est subjectif. Mais ça n'empêche pas que c'est réel. Que c'est réel. Le subjectif est réel. Il ne faut pas dire que le subjectif n'est pas réel. Le subjectif est réel, mais le subjectif peut m'empêcher de voir une autre réalité plus objective. Donc, je vois tout de suite, hein, voilà que ce que je constate. Je vois tout de suite que le mal prend des formes très différentes. Depuis le mal très objectif de quelqu'un qui est mutilé, même, sans trop vous tâter le pouls. Quel est pour vous, c'est une question importante, quel est pour vous le plus grand mal? Il y a du plus et du moins dans le monde. Quel est pour vous le plus grand mal? Posez-vous la question. Est-ce que c'est la souffrance? L'ont dit, une cause du bien première, Ça, c'est les grandes questions métaphysiques. À propos du mal. Est-ce qu'il y a un mal premier ? Je vois que le mal existe. Puis-je, à partir du mal qui existe, poser une induction ? Pour ceux qui savent un peu ce que c'est, poser une induction pour découvrir un premier mal, pour découvrir dans l'ordre du mal un maxime étalé, c'est-à-dire une cause exemplaire, mesure, cause exemplaire. Y a-t-il une cause exemplaire du mal ? Toutes ces questions ont été posées en philosophie. Et toutes ces questions se posent. Y a-t-il des archétypes à la manière de Jung ? Y a-t-il un archétype en nous du mal ? Pour l'un, c'est le serpent. Pour d'autres, c'est la sorcière. Oh.